Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Elles sont 12 associations à s'être réunies pour publier en novembre un manifeste indigné et demander, comme tout le monde, des moyens supplémentaires. Il y a la Fédération des acteurs de la solidarité, la Fondation Abbé Pierre, le SAMU social de Paris ou encore UNICEF France. Je vous le précise bien car les chiffres qu'elles donnent à l'appui de leur appel sont si graves qu'en les lisant, je suis allée vérifier plusieurs fois. Ces associations indiquent ainsi que chaque soir, il y a à Paris 700 enfants qui dorment à la rue avec leurs parents. Qu'en France, ce sont des milliers d'autres enfants qui sont sans abri ou très précaires et que par ailleurs, 20 000 mineurs vivent à l'hôtel en Île-de-France avec leur famille. Depuis le début de l'année, 8 d'entre eux, 8 mineurs donc, sont morts à la rue selon le collectif qui s'appelle des morts de la rue et qui s'occupe des sans-abri. Cette situation est indigne de la France, 6e puissance économique mondiale et signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant, précise ces associations, on est d'accord. Et c'est notre sujet aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ces enfants à la rue pour essayer de comprendre comment une société peut en arriver là. On y fait connaissance avec une mère qui a été expulsée juste avant les vacances scolaires et qui est en train d'entrer dans ses chiffres. Et on commence avec un des sites d'Emmaüs Solidarité à Paris qui tient dans le 15e arrondissement un accueil de jour. Dès 10h le matin, les familles peuvent y venir se réchauffer, prendre un petit déjeuner et profiter d'une douche. C'est ici qu'Olivia Muller, notre reporter, a rencontré cette mère de famille qui vient là tous les jours avec ses 5 enfants. Ils viennent du Liban et ils sont arrivés il y a 4 ans. Pendant 3 ans et demi, les deux parents ont travaillé au noir, dans un marché d'abord, puis dans un restaurant libanais, la mère le jour et le père la nuit. Ils vivaient dans un squat à Saint-Denis qui a été évacué il y a 6 mois et depuis ils sont à la rue. Parfois ils s'abritent dans les sous-sols de l'hôpital Necker et parfois pas. Les enfants qui ont appris le français à la vitesse de l'éclair ont raconté un peu de leur dure vie donc à Olivia, tout de suite dans les pieds sur terre des enfants sans toit ni loi pour les abriter.
En réalité on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
Dans ce local, j'y ai passé quelques matinées. Tous les jours, une mère s'y présente accompagnée de ses 5 enfants. Ils ont les cheveux ébouriffés, le teint fatigué, le plus grand répète qu'il est affamé, mais tous semblent ici comme chez eux.
Bonjour, je m'appelle Aïcha, j'ai 10 ans, je suis en 6e, j'ai 3 sœurs, il y en a une qui a 6 ans, une autre 3 ans, et une autre qui a 2 ans, et mon grand frère qui a 12 ans.
C'est moi en fait le plus grand. Moi je m'appelle... Samy, et là aujourd'hui on se retrouve à Emmaüs et on vient ici tous les jours pour manger, pour faire la douche, pour faire des sorties, pour se faire plaisir. Et nous en ce moment on n'a pas d'hébergement. La première nuit dehors c'était il y a 6 mois. Il y avait un monsieur qui nous a donné une couverture. Après la couverture on a dormi au parc qui se trouve porte devant. Ma mère dormait sur le bois et nous on dormait par terre, sur l'herbe.
Des fois il y a l'herbe qui est mouillée et s'il n'y a pas beaucoup de bancs, on change d'autre parc. Mais jusqu'à maintenant, ils nous ont pas trouvé un hébergement. Et quand les personnes venaient nous regarder bizarrement, ils nous regardaient bizarrement, ils se retournaient contre nous. Et à chaque fois, moi, je me cache des personnes avec ma capuche. Ou sinon, après, je me retourne. Je sais pas, moi, ils nous croient que nous, on reste là-bas pour faire exprès, pour avoir de l'argent. Mais on demande pas ça, en fait.
Vous demandez pas d'argent?
Non.
Si Emmaüs nous a donné une carte, en fait, c'est une carte pour les pauvres, pour les restaurants. Il s'appelle Restaurant des artistes.
Des fois, moi, je mange pas parce que des fois, j'aime pas ce qu'ils font. Mais après, mon frère, il aime bien des fois. Mais moi, je mange rien que les fruits, les yaourts. Mais des fois, ils font un bon repas à la ratatouille. Ça, j'aime bien. Après, en fait, ils nous mettent toujours du poisson. Et j'aime pas.
Et parfois, il y a des gens qui sont sympas, qui sont vraiment gentils. Il y avait un monsieur qui a passé. Il nous a dit, prof, vous êtes dans la rue. On a dit, voilà. On a expliqué l'histoire et il nous a dit, venez chez moi, je vais vous héberger quelques jours parce qu'après moi j'ai le cancer, je peux pas vous laisser à la maison. Après il nous a dit, je vais vous accompagner à l'hôpital Necker. Là-bas il y avait un petit local, sauf à minuit 30.
Mais un jour ils nous ont ouvert la porte à 1h du mat, un truc comme ça. Et des fois on attend juste à côté du restaurant, il y a... Comment ça s'appelle ? Comme les parapluies en fait du restaurant qui sont un parasol, bah on attend sous ça quand il pleut et quand il s'arrête de pleuvoir, après on va directement soit à l'hôpital, sinon on attend quelque part d'autre où il fait chaud, dans un centre commercial, un truc comme ça. Des fois au premier étage, c'est la grande récré, bah ils mettent des jeux, on reste là-bas juste un peu, après on part. Et après... On n'a rien en fait. On n'a pas le droit d'attendre devant le local parce qu'ils ne nous laissent pas.
Le local où vous dormez ensuite?
Ouais. Ils nous disent d'attendre aux urgences. Et après, quand ils nous ouvrent, on est 20 personnes. Et avant, on était 30 personnes dans la salle. Et ma mère, je crois qu'elle vous a montré les photos. Cette famille, 30 personnes dans le local.
Et c'est là, et c'est vraiment une toute petite pièce. On est obligé de se serrer pour dormir. Et quand on rentre, on voit les cafards par terre, on voit les... Ça nous dégoûte. Parfois, on dort à côté des toilettes. Parfois, on fait que de nettoyer pour qu'on dort. Parfois, on nous donne des couvertures, les infirmières. C'est là où on dort bien.
Mais nous, ça fait 5 mois ou 4 mois qu'on est là-bas. Je ne dors pas bien quand on se lève. Il faut qu'on ne dérange personne parce que c'est pour ça que moi j'arrive pas à dormir des fois.
Après à l'hôpital Necker, ma mère en fait, elle est tombée malade parce que quand on nettoyait par terre et tout, elle a attrapé le microbe, elle est tombée malade, ils ont appelé les pompiers. Mais on dit ma mère elle est fatiguée, elle peut pas rester comme ça. Mon père en fait il dort pas à l'hôpital Necker avec nous parce que parfois il y a des femmes, mais quand parfois on est tout seul, il a le droit de dormir. Quand il y a beaucoup de gens dans le local, ils dorment dans le métro, dans le parc, à partir devant où on dormait, nous. Après, quand on appelle les 115, on lui dit « Est-ce qu'il y a de la place ?» Il me dit « Non, vous êtes nombreux, on ne peut pas vous donner des places maintenant. » Parce qu'on est 7 personnes, et 7 personnes, en fait, il faut 2 chambres pour qu'on dort. Et ils nous disent « Il n'y a pas de place, il faut attendre. »
Mais des fois, le 115, il parle une minute avec ma mère, après il lui coupe. Juste, allô, désolé madame, on n'a pas de place. Directement, il coupe. Et je sens que ma mère, elle est vraiment fatiguée. Elle a besoin de se reposer. Des fois, ils sont tristes. Ils lui ont donné son médicament. Elle le prend, mais elle est toujours fatiguée. C'est moi qui le sens.
Qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Je me ressens pas bien. Je me sens malheureuse. Et les gens, ils partent. Des fois, ils ont un endroit où ils les aident. Moi, je me sens mal. Je suis malheureuse, mais je suis contente d'être avec mes parents et mes petites sœurs et mon grand frère.
T'en parles avec tes parents, avec ton frère?
Non. Moi, j'aime pas dire aux gens mes secrets. Le matin, je me réveille à 7h à l'hôpital. Je m'habille, je sors. En fait, on n'a pas de quoi de manger le matin. Donc, ma mère, elle a un peu d'argent pour nous donner. On prend le métro 13, Châtillon. Après, on prend le métro 6, Nation. Après, on sort du métro, on continue tout droit, il y a 2 boulangeries. Moi, j'achète une moitié de viennoise au chocolat. Et après, on attend devant le collège jusqu'à ce qu'ils nous ouvrent. Le premier jour que je suis rentrée à l'école, j'avais trouvé beaucoup d'amis. Quand je suis rentrée dans la cour, il y avait ma classe, 6e 4. Ils se sont tous arrêtés de jouer. Après, ils sont tous venus vers moi. Après, la CPE, elle a dit « c'est votre nouvel élève ». Et moi, j'étais contente d'y aller à l'école.
C'est dans le collège Rodin. 13e arrondissement, c'est la ligne 6. Le directeur, il était vraiment sympa, il m'a donné une trousse.
Il est au courant que vous dormez dans la rue ?
Non, non. Et parfois, je dis à mes amis que j'ai une maison, que voilà, ce que ça c'est, je les dis que je dors dans la rue, ils vont plus me parler, ils vont pas m'aimer et tout. Après, ils me disent, après, tu viens toujours dans les mêmes habits, dans la même coiffure, dans les mêmes... Je réponds pas, je dis, c'est pas grave.
Et moi, je fais genre que j'ai une maison devant mes copains et mes copines. Je leur dis, moi, chez moi, je m'amuse, je fais ça, je fais ci, je fais mes devoirs, mais non. Bah, les devoirs, là-bas à l'hôpital, il y a des tables. Des fois, j'ai pas le temps de le faire parce que des fois, il y a beaucoup de monde. Des fois, je les fais dans le local de l'hôpital. J'aime bien apprendre. Ma matière préférée, c'est le français. J'aime bien conjuguer des verbes avec des phrases dures, faciles. Par exemple, au passé composé, il y a une phrase avec et tu dois la compléter avec le verbe au passé composé. Et j'aime bien faire ça, moi.
Plus tard, j'aimerais bien être un ingénieur architecte. En fait, j'ai peur de rester toute ma vie dans la rue. C'est ça qui me fait flipper. Je dis à mon parent, plus tard, quand le froid il va venir, quand la neige elle va venir, peut-être que les 115 ils vont nous trouver un hôtel. Et là, je vais faire tout pour vous. Et on va bien vivre, on va bien s'amuser et on va bien vivre. Voilà. Il me dit, mon fils, tu dois apprendre, comme ça, quand tu seras grand, tu seras ingénieur. Et comme ça, tu pourras nous aider, c'est pas les gens qui doivent nous aider, c'est toi qui vas nous aider, c'est toi qui vas nous tout faire. Je dis, ok, y a pas de souci.
Moi, si j'étais la présidente de Paris, j'aurais donné à toutes les familles. Chacun un hôtel, puisque j'aime pas voir des personnes dans la rue, par exemple comme nous, c'est triste. Il y a des choses qui me rendent heureuse quand même. Par exemple, j'aime bien les sorties qui nous font Emmaüs. Tout ça pour les familles pauvres. Ils nous ont pris dans le musée de l'homme. À côté de la tour Eiffel. Ils nous ont aussi pris au océan des poissons. Ils nous ont pris pour aller visiter.
À l'aquarium ?
Voilà, à l'aquarium. Et j'étais contente. J'aime bien la ville de Paris parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. En fait, ici, tout nous intéresse.
Quelques arrondissements plus loin, dans un parc du 18e à Paris, j'ai fait la connaissance de Sarah, 28 ans. Enroulée dans une large écharpe rose, une veste en jean en guise de manteau, elle allume sa cigarette, prend un café et me raconte.
Le loyer était de 683 € par mois, pour un appartement qui était vraiment, mais vraiment horrible. J'ai eu des cafards, j'ai eu des souris. Je me réveillais avec ma fille tous les matins et on avait très, très, très froid. Et c'est vrai que quand on regardait de l'extérieur, j'étais la seule dans le bâtiment qui n'avait pas de double vitrage. Il y avait quand même un trou. Donc ce trou-là, il était quand même compliqué à boucher. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des cotons. Mais vraiment des cotons, du scotch, des cotons, du scotch. Et j'ai mis un drap tout autour de la fenêtre. Et de l'humidité partout. Et au niveau de l'électricité. un soir, je préparais, j'allais commencer à préparer donc à manger à ma fille. Donc je mettais comme d'habitude donc la prise du four sur la prise murale et elle a pris feu. J'appelle le propriétaire, je lui explique, je lui dis écoutez, voilà ceci, cela. Il s'est déplacé. Donc il me dit de mettre du scotch. Alors lui, c'est tout avec le scotch en fait. Et le pompon, c'était en 2017 jusqu'à 2018, j'ai eu des punaises de lit.
Sarah s'est séparée de son conjoint dans de mauvais termes. Alors elle élève seule sa fille dans cet appartement, parvient d'abord à éponger les dettes, puis craque, elle aussi. Sans emploi, sans salaire, elle peine à payer son loyer tous les mois, en temps et en heure. Malgré l'aide d'une assistante sociale et en dépit des efforts de Sarah pour honorer un plan d'apurement, en l'occurrence un accord passé entre la CAF, le propriétaire et Sarah afin d'échelonner les remboursements, le propriétaire parvient à obtenir l'expulsion de Sarah et de sa fille cet été, deux jours avant les grandes vacances.
De là, le combat a commencé. J'ai été convoquée du coup par le commissariat du 18e. On m'explique qu'il y a le DALO, droit au logement. Donc du coup, je reçois une réponse 3 mois plus tard, c'est refusé. Et un soir, un samedi soir, donc je suis moi devant ma télé à 23h30, ma fille qui est dans la chambre en train de dormir, j'entends quelqu'un qui s'amuse avec la serrure. Donc je m'approche de la porte et je demande « c'est qui ?». Donc quand je demande « c'est qui ?», la personne descend des escaliers en courant. Je suis au premier étage, je cours vers ma fenêtre, j'ouvre la fenêtre et c'était qui ? Mon propriétaire. Donc il court dans sa voiture, il est accompagné de ses 3 garçons. Pour moi, il a essayé d'ouvrir la porte, mais rien de plus. Le lendemain, je vais au commissariat, je dépose une main courante en expliquant que voilà, je l'ai vu de mes yeux vus, sauf qu'il n'y a pas de preuve. Donc ils prennent quand même ma main, je lui dis que j'explique qu'on est en procédure, qu'il veut récupérer son appartement. Je rentre à mon domicile, je mets la clé sur la serrure, la clé ne passe pas. En fait, ce que le propriétaire avait essayé de faire, c'était pas de s'introduire dans le domicile, c'était qu'il avait mis du silicone, c'est de la colle. Je vous explique même pas le temps que j'ai mis à enlever le silicone, j'ai réussi. Du coup, je suis rentrée en panique parce que on n'était pas encore à la période hivernale. Donc, j'avais tous les jours, c'était du stress. Tous les soirs, c'était de la peur. Tous les matins, c'était je vais au travail, je dépose ma fille. À n'importe quel moment, je suis expulsée. Je suis pas au courant parce que je suis au travail. Je racontais à ma fille qu'on allait déménager parce qu'on allait prendre un appartement plus grand. J'allais pas raconter à un enfant de 6 ans, lui dire écoute, on va se faire jeter dehors parce que maman, elle a eu des problèmes de sous, quoi. Mais après, la période hivernale est arrivée. Donc, quand la période hivernale est arrivée, mais il faut savoir que c'est pas parce qu'on est dans la période hivernale que ça y est, on est tranquille pendant 3-4 mois. Non, on a encore une marge de 3-4 mois pour essayer de se débrouiller, pour essayer de trouver une solution. Mais on n'est jamais tranquille dans ce genre de cas, hein, faut savoir. Hein. C'est du stress, c'est encore plus de stress parce qu'on se dit, il nous reste que 3 mois, que 2 mois, que 1 mois et après, hop. La bonne nouvelle pendant cette période assez dure, c'est que j'étais favorable au DALO. Après un premier refus, le deuxième a fonctionné, donc c'était quand même une bonne nouvelle. Donc du coup, là, on sort de la trêve hivernale. J'ai pas d'autre solution. J'ai tout ce qu'on me dit au téléphone ou à plein vue, c'est il faut attendre. Il fallait en fait que j'attende, que je me fasse expulser. C'est moche à dire, hein, pour qu'il y ait en fait des solutions. Au mois de juin, donc le 28 juin, je suis expulsée à 9h du matin, juste avant les vacances scolaires. Je dépose ma fille le matin à l'école. Donc heureusement d'ailleurs qu'elle n'était pas présente à ce moment-là. 3 policiers et l'huissier. J'ai pris avec moi que les affaires de ma fille et mes affaires. Le reste, j'ai tout laissé. Même les couvertures, je ne pouvais pas en fait. J'étais prise de panique, je transpirais, j'avais chaud. J'ai appelé une amie à moi d'urgence, si c'était possible qu'elle vienne me récupérer en voiture avec les cartons. Tout ça en pensant que j'allais être relogée au minimum dans un hôtel. Donc de là, je demande au policier ce document qui dit que je suis relogée au minimum dans un hôtel. On m'avait prévenu que ce serait dans un hôtel parce que je suis favorable au DALO, au droit au logement.
Et donc prioritaire et protégée a priori.
Oui, c'est ça. Je suis expulsée, mais je suis expulsée et relogée dans un hôtel en attendant de trouver une autre solution. Sauf que non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc de là, j'appelle le comité logement. J'explique au comité logement que j'ai pas ce document, donc lui-même est choqué. Comment ça? Pourquoi? Bah écoutez, je sais pas, tout ça, et les policiers sont à côté de moi et entendent ma conversation. Donc il lui explique qu'apparemment il y avait un nouveau préfet qui avait été élu une semaine avant. Et du coup là j'entends la commissaire dire que apparemment le préfet aurait dit que le droit au DALO, on pouvait s'asseoir dessus. C'est les consignes du nouveau préfet, voilà.
Et
Je me retrouve du coup donc dehors hein, avec mes affaires, donc valise, un caddie avec des chaussures dedans, enfin bref. Bah là je pleure. Moi j'attendais en fait ma copine et elle me demande où est-ce qu'elle me dépose, je lui dis je sais pas. Donc du coup elle me ramène elle à son domicile, donc je suis à son domicile effondrée en pleurs avec l'assistante sociale au téléphone avec à peu près tout le monde qui comprennent pas le pourquoi du comment, comment ça se fait que le préfet a décidé ceci. Je leur explique que pour l'instant je suis une amie, que ma fille est toujours à l'école dans le 18e, que je dois aller la récupérer en fin de journée. Enfin, c'était l'affolement, personne n'avait de réponse à mes questions. Du coup j'ai pris les devants. J'ai fait finir les deux jours d'école à ma fille, donc le vendredi je prends ma fille quelques affaires. Je prends un train et je vais en fait dans ma famille dans le 60. Donc je suis à l'abri à ce moment-là jusqu'à fin juillet. On est chez des cousins éloignés, on est à même le sol hein, sur des couvertures. C'était comme ça pendant 3 semaines. Je savais que fin juillet il fallait que je quitte le domicile de mes cousins éloignés. Donc c'est ce qui s'est passé, je retourne sur Paris. Hôtel, pas forcément hôtel. Il y a des nuits où moi je me retrouvais dehors. Et je mettais ma fille à l'abri chez des amis. Il y a eu des nuits où je dormais sur des bancs, oui. Je dormais assise, hein, je m'allongeais pas, mais... M'endormir pour m'endormir, non, mais... Fermer les yeux, m'assoupir à une petite demi-heure, tout ça, oui. Heureusement, on n'était pas dans une période où il faisait très très froid, mais quand même, le matin, à 3h, 4h du matin, on le sent quand même. Des fois, dès qu'il y avait des cafés qui s'étaient ouverts jusqu'à des 2h du matin, bah, je me posais un petit peu au chaud. Je prenais un verre, un café... C'est tout ce que je faisais, passer le temps. Arrivé à 7h30, 8h du matin, à ce moment-là, je contactais la personne, mon ami en question, à savoir si ma fille était réveillée. Si elle était réveillée, bah, j'allais. Son petit déjeuner, je l'habillais, je la récupérais. Je lui faisais passer sa journée. J'avais de la chance, c'était en été. Elle restait avec moi toute la journée dehors. Ça, psychologiquement, pour un enfant, c'est dur. C'est-à-dire, il y a des moments, maman, pourquoi on rentre pas? Qu'est-ce que je lui dis? Oh, on reste un petit peu, il fait beau. Pendant qu'elle jouait, moi, je trouvais une solution sur mon téléphone pour pouvoir lui trouver un endroit où dormir le soir. J'avais une proposition, par exemple, j'avais une amie qui me dit « Écoute, je te prends ta fille et toi pendant une nuit, deux nuits. » Pour moi, c'était déjà énorme. C'était déjà très bien, c'est déjà gentil. Juillet, on va dire que ça va. J'ai su gérer. Au mois d'août, pour moi, ça a été très dur. Parce que le mois d'août, ça a été la période où les gens sont forcément en vacances. Je contactais mon assistante sociale et le comité logement pratiquement tous les jours, tous les matins. En leur disant, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai pas d'endroit où vous mettre ma fille à l'abri. Juste ma fille. Il y a des endroits pour mères célibataires. Il y a des endroits pour mères célibataires. Alors oui, je veux bien comprendre, je veux bien entendre qu'il n'y ait pas beaucoup de place, qu'il n'ait plus de place. Mais il y a des endroits. Après, il faut savoir quelque chose, c'est que dans ce genre de situation, il faut qu'on se débrouille tout seul, en fait. Personne m'a proposé de me laisser son appartement pendant qu'il partait en vacances et... Je me suis débrouillée toute seule. Je continue à le dire. Et puis, donc, ma fille fait sa rentrée à l'école, sans solution. Et à la rentrée, j'ai repris le travail. Finalement, le 17 septembre, je reçois donc un texto du SAMU qui m'explique que j'ai eu le droit à un hôtel, donc jusqu'à qu'on me reloge. Donc ça, c'était quand même quasi une bonne nouvelle. Hein. Je vais pouvoir au moins dormir avec ma fille, être avec ma fille. L'hôtel est correct. L'hôtel est correct. C'est tout ce que j'ai à dire sur cet hôtel. Après, il faut savoir que dans les hôtels qu'on nous propose, il n'y a pas de cuisine. Donc financièrement, c'est très compliqué. Les dîners typiques, c'est sandwich au thon, sandwich à la dinde. Bon, après, c'est pour un enfant, c'est... Moi, je sais que ma fille, elle adore ça. Hein. C'est un pique-nique, en fait, pour elle, avec un petit paquet de chips à côté. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors oui, c'est de ma faute. Une partie, c'est de ma faute. Mais j'ai quand même tout fait pour m'en sortir. Et c'est vrai qu'à 28 ans, on s'imagine pas en fait de se retrouver dans ce genre de situation. Parce que c'est dur psychologiquement. Je suis restée 2 ans dans stress. 2 ans dans cette souffrance. 2 ans dans... Quand je téléphone du matin jusqu'au soir, c'est « on n'a pas de solution pour l'instant, madame. Il faut attendre, madame, que vous soyez expulsée pour qu'on vous reloge. » Sauf que moi, je me suis fait expulser et il n'y a pas eu de relogement par la suite en fait.
Sarah est en lien tous les jours avec la mairie et son assistante sociale. Allez-y, vous pouvez décrocher si c'est important.
Allô ? Oui, bonjour Madame Laura.
En attente, toujours, d'une solution plus pérenne que l'hôtel.
Je l'ai eu, oui.
Alors qu'elle s'apprête à poursuivre son récit, son téléphone vibre, ses yeux s'illuminent.
D'accord.
C'est évident qu'elle doit répondre.
Il y a une visite qui sera faite ? Oui. Donc c'est un T1. Hein. D'accord, ok. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci également. Au revoir. Yes, ma candidature a été retenue. À la mairie, c'est un foyer, mais avec des appartements individuels pour les mères en difficulté avec des enfants et qui travaillent. Et ce serait un T1 de 31 mètres carrés et c'est du tout neuf. C'est super, c'est génial. Je suis vraiment contente parce que je vois un petit peu le bout du tunnel.
Du coup, là, on se revoit un mois plus tard. Vous m'avez appelé il y a quelques jours pour me dire que finalement, on vous avait refusé l'hébergement qui était censé vous être attribué.
Oui, c'est ça, effectivement, le mardi 12 novembre. Donc, j'ai mon assistante sociale qui m'appelle et qui me confirme que là, donc, il y avait une commission vendredi. Donc, ça a été refusé finalement, oui. On cherche à savoir pour quel motif, mais jusqu'à présent, on n'a pas de réponse. C'est frustrant, énervant. Parce que pendant 2 mois, c'était des rendez-vous. Pendant 2 mois, c'était un grand espoir quand même. Hein. Je me suis vraiment dit, fin d'année 2019, ça y est, je suis sortie de ce cauchemar. On est toujours dans le 20e, donc dans l'hôtel, à l'abri, au chaud. Mais n'empêche que psychologiquement, c'est pas une vie saine, en fait, ni pour ma fille, ni pour moi. Beaucoup plus de questions, en fait, que ma fille me pose. Pourquoi c'est aussi long? Pourquoi on est encore à l'hôtel? Ne jamais donner d'espoir à une personne qui est à la rue. Parce que cette personne, tous les jours, elle se dit « Demain, ça ira mieux. Demain, il y aura une solution. Demain, il y aura un logement. Demain, je vais pouvoir respirer. » Ne jamais donner de l'espoir à une personne qui est à la rue. Après, encore une fois, je peux pas baisser les bras. Je vais encore me battre pour ma fille et moi. I was walking through the open plain. The silver lining of a burning flame. You went by me like a fast train. When suddenly you cut through the rain, did you hear me call?
You finally left. I hate the goodbye. Day the sun came. You needed to fly. No more seeing your heart as heavens now. And my smile left with your heartbeat, mama angel. Fixer of scars, queen of song. And laughter to make four walls home. And then from breast to bone, no matter what was shown, you fought. With smile and strength and prayer. And fear and tear and courage and worry. And weight loss and doctor's words. Make your mother as comfortable as possible.
C'était Des enfants sans toit ni loi pour Les Abrités, un reportage d'Olivia Muller réalisé par Clémence Gross, l'attachée de production des Pieds sur Terre. C'est Aurélie Marsay et nous avons un nouveau stagiaire, Abdelrahim Chekroun. Merci à Aïcha, à Samy, à Sarah, à Nathalie, Marthe, à Samia Abdi et à Violette Volson.